Je n'ai pas été surpris parce que, en réalité, Wagner n'ont jamais été les vrais combattants, surtout en Afrique. En Afrique, ils avaient deux emplois. Le premier emploi, ils servaient de garde du corps aux dictateurs africains. Et à ce moment-là, c'est jamais les gens qui mènent les batailles. Donc en fait, c'est les gardes du corps qui impressionnent les gens, mais en réalité, ils sont pas les combattants. Donc ça, c'est le premier emploi. Et le deuxième emploi, les instructeurs Wagner enseignaient comment mener les batailles, mais sans jamais se battre eux-mêmes. Et donc en fait, ils étaient ce qu'on appelle les profs, les instructeurs. Et quand les Wagner commencent à se battre eux-mêmes, en réalité, assez souvent, on constate qu'ils savent pas se battre. C'est ce qui s'est passé aussi en Ukraine. En Ukraine, en fait, s'ils progressaient, ce n'est pas parce qu'ils savaient se battre, mais parce que, en réalité, par exemple, Prigogine et les commandants des forces Wagner s'en fichaient complètement de la vie des hommes qu'ils avaient. Et donc, ils perdaient beaucoup d'hommes. Prigogine a parlé de quelque chose comme 30 000 personnes qu'il a perdues lors de la bataille de Bakhmout. En réalité, c'est même beaucoup plus, parce que si on rajoute les blessés, c'est quasiment 60 000. Donc voilà, et donc Wagner, ce ne sont pas les très très grands combattants, c'est plutôt des flibustiers, c'est plutôt les gens qui sont à la recherche de fortes sensations ou de l'argent. Et donc ils sont pas les grands combattants, et une fois lorsqu'ils ont rencontré au nord de Mali les vrais combattants, et bien évidemment, ils sont tombés dans l'embuscade et ils ont été massacrés, comme ils étaient massacrés aussi par les Américains en Syrie il y a quelques années.
L'implication des forces Wagner est souvent présentée comme une contribution significative à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Compte tenu de l'ampleur des pertes humaines dans ce dernier affrontement, ces événements, selon vous, remettaient-ils en question l'efficacité ou la stratégie des Wagner dans cette région sahélienne?
Leur efficacité en ce qui concerne gagner de l'argent pour eux n'est jamais remise en question, parce que ça, ils savent faire. Ils savent corrompre en fait les dictateurs africains, s'introduire auprès de ces dictateurs comme les gardes du corps, et gagner beaucoup d'argent et participer aussi à un partage de territoire et de richesses de ces pays en leur faveur. Mais en revanche, leur rôle dans la lutte contre les islamistes et contre les terroristes a été souvent remis en question, parce que déjà quand il y avait des Français sur le terrain, ils disaient que les Wagner soit ne faisaient rien, soit au contraire en fait entretenaient en quelque sorte la terreur sur le terrain. C'est comme ça que ils pouvaient en quelque sorte régner après en maître dans le territoire dans lequel régnait cette terreur. Lorsque les Français sont partis, ils sont restés sur place, et bien évidemment, comme c'est pas les grandes forces, ils n'ont pas l'appui de l'État russe finalement, contrairement à ce qu'on raconte, parce que Wagner c'est quand même les gens qui sont partis en Afrique pour gagner de l'argent, donc voilà, et en réalité, ils n'ont jamais donné des résultats extraordinaires dans la lutte contre le terrorisme international et le terrorisme local en Afrique.
Les Africains ont parfois des attentes élevées concernant la collaboration avec des forces étrangères comme Wagner pour améliorer la sécurité. En tant qu'analyste, comment percevez-vous l'impact de ces récentes pertes sur l'espoir des populations africaines dans cette coopération?
Le problème en Afrique, c'est que la population africaine est très naïve. Et donc, il croit souvent, il tombe souvent en fait dans les travers de compréhension, parce que, vous savez, il y a des mythes qui circulent en Afrique, et le mythe le plus populaire, c'est que les pays occidentaux étaient les grands pays colonialistes, ce que ces pays étaient, et qu'ils pillaient les pays africains, et ils ne faisaient absolument rien pour le développement de ces pays, ce qui était faux. faux. Parce que si vous prenez actuellement, par exemple, la Russie ou quelques autres pays, la Chine, par exemple, investit en Afrique plus de 300 milliards de dollars par an. L'Union européenne, plus de 400 milliards. La Russie, 18 milliards. Ça veut dire que la Russie investit absolument rien en Afrique. Et sur les 18 milliards de commerce extérieur avec l'Afrique, les 14 milliards sont les exportations russes en Afrique, la plupart du temps des armes, et ils n'achètent des produits africains que pour la somme très modique de 4 milliards. Ça veut dire, en gros, ils ne font absolument pas vivre l'Afrique, ils ne font aucun investissement en Afrique, ils investissent uniquement dans les dictateurs et ils fournissent les armes et donc indirectement ils favorisent en fait les batailles et les guerres locales entre les États et entre les groupes d'influence. Wagner, de ce point de vue-là, n'apportait absolument rien au développement africain. Mais et si vous prenez par exemple la France, c'est l'inverse, parce que la France, le commerce extérieur avec de la France avec l'Afrique, c'est 66 milliards, dans lesquels 46 milliards, c'est les achats français des produits africains, et seulement le reste, ça veut dire 26 milliards, ce sont les ventes françaises aux pays africains. Et donc la France, par exemple, là où elle est, en réalité, elle fait développer, elle participe au développement des pays dans lesquels elle participe, dans lesquels elle investit, et ainsi d'autres pays. La Russie n'investit absolument pas. Mais les Africains sont un peu naïfs parce que ils croient que parce que les pays occidentaux vont partir et donc ils vont rester maîtres des matières premières, des terres qu'ils ont. En réalité, il y a les prédateurs qui arrivent. Parmi les prédateurs, on peut aussi nommer la Chine, parce que la Chine, en fait, a une particularité, c'est que quand il fait des investissements en Afrique, ce sont des investissements pour travailler ses propres travailleurs. Ça veut dire qu'il amène sa propre main-d'œuvre de la Chine, elle fait travailler sa propre main-d'œuvre, et tout ce qui est produit en Afrique avec l'argent chinois est après exporté vers la Chine. Ça veut dire que la Chine aussi est en train de piller en fait les biens de l'Afrique. Et en fait, ces pauvres Africains croient que les Russes vont reprendre la place qui était jouée par l'Union soviétique, qui vont envoyer les médecins, les docteurs, les ingénieurs, les géologues et d'autres personnes qui ont participé au développement des pays africains dans les pays 50, 60, 70. Et en fait, tout ceci n'existe quasiment pas, sauf quelques pays avec lesquels la Russie a de vrais programmes de coopération, par exemple l'Égypte ou l'Algérie. Tout le reste, c'est les petites coopérations qui sont insignifiantes. Mais bizarrement, ces gens-là croient que Poutine, c'est un grand sauveur de l'Afrique, c'est quelqu'un qui va sauver l'Afrique, qui va apporter de l'argent, qui va investir. Et donc, dans cette histoire, ils sont très, très naïfs. Et en fait, ils payent déjà très cher pour leur naïveté et ils vont encore payer beaucoup plus cher parce qu'en réalité, Poutine va piller l'Afrique sans jamais investir quoi que ce soit en Afrique.